Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir à la station Ozone. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Madame Clara Dupont-Monod, qui vient nous parler de son dernier ouvrage, La Révoltée, paru chez Stock.
La Révolte.
La Révolte, pardon, paru chez Stock.
Mais c'est aussi La Révoltée.
Ouais, mais également La Révoltée, plusieurs même révoltées.
Oui.
ce roman, un roman magnifique, une saga contemporaine, qu'on pourrait dire, fait suite donc au premier opus, Le Roi disait que j'étais diable, paru chez Grasset. On reprend finalement l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, là où s'était arrêté Le Roi disait que j'étais diable. Donc, nous sortons de 15 ans de mariage avec le roi Louis VII, une union rompue. Et vous démarrez ce roman en 1152, au moment où Aliénor d'Aquitaine, figure qu'on connaît bien ici, épouse Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Alors ce livre, c'est vraiment une saga, au sens littéral du terme, enfin moi j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'elle nous conte à la fois un récit historique, mais ça peut aussi être une fiction, une légende. Ce livre, un peu tout à la fois, un peu tout ça à la fois un roman historique, un récit historique, il y a quelques moments de fiction, vous inventez quelque chose pour donner du caractère au personnage, et j'aurais aimé vous poser comme première question, savoir quelle est finalement votre méthode de travail? Comment êtes-vous parvenu à cerner ce personnage d'Aliénor d'Aquitaine, à lui donner un caractère, à faire finalement de cette figure historique une figure littéraire à part entière?
Alors d'abord, les faits m'ont aidé. Parce que quand je vois qu'Aliénor d'Aquitaine, de 13 à 30 ans, elle a été mariée au roi de France, elle était reine de France, elle s'est ennuyée alors que lui était fou amoureux d'elle. Ça, c'était le premier, entre guillemets, tome. Parce que la suite, en effet, vous l'avez dit, c'est chronologique, mais on peut lire les deux séparément. Déjà, je vois ça, c'est quand même une tension romanesque donnée sur un plateau, quelque part. Et puis ensuite, quand je vois qu'elle arrive à quitter Louis VII avec l'aval de l'Église, elle a à ce moment-là 30 ans. Ça, je terminais le roi disait que j'étais diable. Et puis, c'était les lecteurs, en fait, qui me disaient « Mais attendez, qu'est-ce qui se passe après ?» Parce que, d'accord, elle quitte Louis VII, elle a 30 ans, elle part sur son cheval, elle rend quand même sa couronne de reine de France. Et qu'est-ce qui se passe après? Et moi, je m'entendais leur répondre, eh ben, il se passe après qu'elle jette son dévolu sur un jeune homme de 11 ans plus jeune qu'elle, ce qui fait d'Aliénor la première cougar, une des premières cougars de notre histoire, qui est roux, qui est trapu, qui est extrêmement bon guerrier, qui lui fait 8 enfants en l'espace de 10 ans, quand même, dont Richard Cœur de Lion. Et puis, en 1173, quand Aliénor a une cinquantaine d'années, elle convoque ses trois fils et elle leur dit « Venez les enfants, on va renverser papa. » Et les trois fils répondent « Mais quelle bonne idée
oui. !»
Si on résume, c'est un peu ça, quand même.
Enfin, tout à fait. Ils suivent leur mère.
Ils suivent leur mère. Et Aliénor, alors que donc, je rappelle qu'on est en 1173, réussit à lever une armée quasiment européenne et elle attaque son mari, qui est empereur. Alors, à ce moment-là... pour information, lui régnait de l'Écosse jusqu'au sud des Pyrénées, puisque l'Aquitaine, où nous sommes, de Aliénor, souvent, quand dans les autres régions de France, quand j'ai l'Aquitaine, les gens pensent c'est Bordeaux et sa banlieue, quoi. Je rappelle quand même que l'Aquitaine, à ce moment-là, c'était un territoire immense, en fait, qui allait de Poitiers au sud des Pyrénées, en débordant sur l'Auvergne, ce qui faisait d'Aliénor d'Aquitaine le seigneur, un des plus puissant d'Europe, ce qui n'était pas encore l'Europe, mais en tout cas un seigneur extrêmement puissant et qui l'épousait avec l'Aquitaine. Donc elle, en plus, se savait proie, quelque part. Elle, qui est chasseur, se sait proie, d'où sa colère aussi. Et du coup, elle lance offensive contre son mari et elle échoue pour la première fois de sa vie. Elle perd. Et quand son mari, avant de la révolte, il a trois fois moins d'hommes et en 2 mois, il met tout par terre. Alors, petite précision, en lançant la révolte, elle va quand même quémander auprès de son ex, Louis VII, ce brave Louis VII, à qui il faudrait bien consacrer un roman un jour entière.
Oui.
Et elle lui dit, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, occuper la Normandie? Donc, vous voyez la symbolique de ce qu'elle lui demande, quoi. Est-ce que tu pourrais m'aider à aller anéantir l'homme pour lequel je suis parti, pour lequel je t'ai quitté?
Il est fou amoureux.
Alors, ça, c'est la romancière qui dit ça. Moi, je pense qu'il l'a toujours eu dans la peau et qu'il ne peut pas lui dire non. Et donc, il accepte. Mais dans les faits, il a accepté. Donc,
voilà. Sûr.
Et ensuite, quand le Plantagenet marche sur Aliénor, parce que donc elle est en train de perdre, elle lève encore un tabou, mais elle n'a jamais fait que ça. Elle se déguise en homme pour échapper à son mari et aller rejoindre Richard Cœur de Lion sur la route de Chartres. Et elle tombe dans une embuscade tendue par les hommes du Plantagenet. Donc elle est faite prisonnière de son mari, qui la met dans une tour, en résidence surveillée, mais dans une tour, la tour de Salisbury en Angleterre, pendant 14 ans. Et au bout de 14 ans, c'est Richard Cœur de Lion, toujours son fils préféré, qui vient lui ouvrir, et elle est en pleine forme. Oui, c'est quand même une force de la nature. Je rappelle qu'elle s'est éteinte à 82 ans et qu'elle a enterré tous ses enfants, sauf le dernier, que par ailleurs elle n'aimait pas, qu'elle trouvait bas de plafond et caractériel, et qui était Jean sans terre et qui sera le méchant roi dans Robin des Bois. Mais autrement, Aliénor a enterré tous ses enfants et en tout, elle en a eu 10. Donc voilà. Donc quand je vois ça, je me dis, bon, alors attendez voir. Si vous êtes romancier, c'est quand même compliqué de résister. Faut vraiment me bâillonner et me ligoter pour pas y aller, quoi. Alors après, la façon que j'ai de travailler, c'est que je prends comme petit défi, comme grand défi même, je n'invente rien au niveau de la chronologie. C'est-à-dire que tous les événements sont absolument véridiques. Mais par contre, je suis maîtresse du temps. C'est-à-dire qu'une ligne dans un livre d'histoire pourra me faire 20 pages. À l'inverse, ça marche aussi. 20 pages dans un livre d'histoire peuvent me faire une phrase. C'est moi qui décide du temps. Je l'élastique ou je le restreins. Et en revanche, après, le cauchemar de l'historien, qui sont les blancs, moi, romancière, je m'en nourris. C'est-à-dire que là où l'historien dort mal en disant « mon Dieu, mais là, j'ai un interstice », moi, je me jette sur l'interstice. Et alors ça, c'est la grande injustice... par rapport au travail d'historien, de romancier. Et j'ai un de mes amis qui est médiéviste et qui a lu La Révolte, et moi, j'étais un peu suspendue à son jugement, et il m'a dit, cette phrase que j'adore, il m'a dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vous envie, vous les romanciers, parce que vous faites tout ce qui nous est interdit de faire à oui, nous, les historiens. C'est-à-dire qu'il connaît par cœur la vie d'Aliénor d'Aquitaine, c'est le seul à qui je peux dire, avoir des conversations aussi folles que de lui dire, mais dis-moi, le 22 août 1172, Aliénor d'Aquitaine, on est d'accord qu'elle mange du civet ou du ragoût? Et il me répond, oh, bah, du ragoût, tu sais bien qu'elle ne digère pas le lièvre. Enfin, on a des conversations comme ça. Il connaît par cœur la vie d'Aliénor. Et s'il est sûr que tel soir, elle est heureuse, défaite, mal, il ne peut pas l'écrire parce qu'il n'y a pas de preuve. C'est une science, l'histoire, quand même.
Tout à fait.
Et ben moi, je peux. Alors... C'est ce que je lui dis. Je lui dis, moi, je suis désolée, mais je peux. Et en effet, alors après, c'est tout le travail de l'historien que moi j'adore, mais du romancier. Vous voyez, j'ai fait le lapsus. Mais par exemple, quand je vois que Aliénor a perdu un seul enfant en bas âge,
Guillaume,
qui s'appelait Guillaume, il est mort quand il avait 3 ans. Alors déjà, à l'échelle du Moyen Âge, c'était déjà en soi une exception, parce que ne perdre entre guillemets qu'un enfant avant l'âge de 5 ans. Sur 10 enfants, c'est assez peu en réalité, oui. En regard de la mortalité infantile de l'époque. Mais Aliénor enterre cet enfant qui a 3 ans, qui est une ombre dans les livres d'histoire. Mais après, je m'aperçois que la fille d'Aliénor, qui s'appelle Mathilde, quand elle devient mère à son tour, elle a un fils qu'elle appelle Guillaume, de nouveau. Alors, je sais bien, les historiens m'expliquent, et ils ont raison, que Guillaume était le prénom le plus donné au Moyen-Âge. Donc, rien d'étonnant, en fait. Mais moi, romancière, je peux inventer ou imaginer une sorte de chagrin qui serait transmis de mère en fille autour d'un enfant disparu. Ça, c'est typique, c'est quelque part improuvable, mais ça, c'est le ressort de l'historien.
Bien sûr.
Je peux imaginer, voilà, comme parfois ça peut arriver, ces espèces de douleurs fantômes qu'on se transmet finalement de génération en génération. Et quand Richard Cœur de Lion prend la parole et dit, mais peut-être que si ma mère m'aime autant, c'est parce que comme je suis arrivée après Guillaume, est-ce qu'elle m'aime pas autant parce que je porterai le fantôme de cet enfant disparu et que j'incarnerai peut-être cet enfant qui n'a pas eu le temps de vivre et donc je suis un imposteur finalement. Ça, c'est une interrogation absolument improuvable, anachronique, mais ça, c'est le romancier qui peut le faire.
Alors, j'aimerais bien revenir justement sur ces spectres finalement qui jalonnent tout votre roman, mais avant ça, j'aimerais faire un peu de chauvinisme.
De chauvinisme.
Exactement.
Allez-y.
L'Aquitaine, dans votre roman.
Oui.
L'Aquitaine est opposée, finalement, quasiment à l'Angleterre. Vous présentez l'Aquitaine comme une terre riche, verte, vaste, vous l'avez expliqué. Et vous présentez, en revanche, l'Angleterre comme un pays qui sort de la guerre civile, un pays où il pleut, il fait gris, et où, finalement, un pays en plein chaos. Et on voit... On voit Aliénor se nourrir de ce chaos et finalement déverser sa colère plutôt sur ce chaos, enfin se servir de ce chaos finalement comme exutoire.
Oui.
Donc finalement il y a une réelle opposition entre ces deux pays.
Oui, alors je décris et l'Aquitaine et l'Angleterre exactement comme Aliénor les voyait. En fait, Aliénor a assez peu mis les pieds en Angleterre. Elle n'aimait pas ce pays. ça lui parlait pas du tout, et elle, elle était absolument et viscéralement attachée à l'Aquitaine. Alors ça, c'est pas la romancière qui parle, c'est acté, j'apprends rien à ce public, ça c'est sûr, mais on voit dans les faits à quel point Aliénor a réagi comme un seigneur qui défend sa terre, et c'était vraiment pas touché à l'Aquitaine. De surcroît, visiblement, mais ça vous connaissez certainement ça mieux que moi, l'Aquitaine était quand même traversée par des querelles. Il n'y avait pas plus indocile qu'un Aquitain, peut-être un Écossais à l'époque.
C'est vrai.
Qui était. Mais
c'est toujours le cas.
Mais du coup, toute la famille, tout ce qui est les Lusignans, etc., etc., l'Aquitaine, c'était la guerre avec la Gascogne. Enfin, je veux dire, c'était la terre d'ébullition et de révolte quasi permanente, quoi. Et le Plantagenet n'a pas été le seul à se casser les dents sur le fait de vouloir mettre au pas l'Aquitaine, et c'était impossible. Et Aliénor est très représentative de ça. Elle est tout à fait comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle épouse le Plantagenet, il passe un contrat. Ça, c'est véridique pour le coup. Elle lui dit « Tu touches pas l'Aquitaine. Je te la porte dans ma corbeille de mariée. Donc, tu es surpuissant, parce que ça, on le colle à la Normandie et à l'Angleterre. Donc, ça fait quand même un empire. D'ailleurs, on disait l'empire Plantagenet. Mais tu me laisses me débrouiller avec mon Aquitaine. » Et il a dit « Oui. » Et en fait, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que lui, il a décidé assez vite, pour faire court et schématique, que cet empire-là en question, qui allait quand même... Alors du coup, si on récapitule quand même de l'Écosse, donc aux Pyrénées, il y aurait une même loi, il y aurait une même langue, il y aurait une même monnaie, pour schématiser. Hein. Et quelque part, c'est lui qui a raison. En fait, la postérité, c'est ça qui est terrible dans l'histoire d'Aliénor. C'est qu'en fait, c'est lui qui en avance. Il voit à beaucoup plus long terme qu'elle. Elle est quand même campée sur ses frontières et elle a une logique de seigneur féodal. Elle dit pas touche à l'Aquitaine, mais elle se comporte comme un seigneur, pas comme un homme d'État. Si on est très honnête, moi je trouve que elle est pas si en avance que ça. Et c'est ça qui me la rend moi extrêmement à la fois touchante et tragique, c'est qu'elle est en avance sur tout, mais pas politiquement, je trouve.
Oui, bien sûr. Et malgré tout. L'Aquitaine est également présentée comme une terre vraiment de savoir. Ah oui. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est un agréable paradoxe. On voit dans le roman, tout au long du roman, que finalement, c'est une terre qui, à la fois... Donc, on le rappelle, Aliénor d'Aquitaine est la petite-fille de Guillaume le Troubadour, qui était un éminent seigneur et prince de lettres, mais également, on voit toute la superstition, elle-même a des pratiques superstitieuses, on voit...
Alors, c'est moi qui l'a fait comme ça. Hein.
Oui, mais...
Je l'ai fait très païenne.
Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai.
Très païenne. Oui. Alors, après, dans les faits, Aliénor pouvait pas être aussi ouvertement opposée à l'Église, même si elle a passé son temps à l'Église s'est étranglée d'indignation devant la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Déjà, elle commence par planter son mari dans le roi de France. Donc l'Église, elle tousse. Après, elle lance offensive contre son mari. Donc là, l'Église, elle a un AVC, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même l'histoire d'Aliénor vis-à-vis de l'Église. C'est une longue série de sursauts très indignés. On a retrouvé des lettres que font les évêques à Aliénor au lendemain de la révolte, justement contre le Plantagenet. C'est pour eux, ils sont vraiment retournés. Ils lui disent c'est écrit comme ça, retourne auprès de ton mari qui t'accordera protection. Alors, vous voyez Aliénor qui lit ça, la protection, elle l'a trouvée toute seule. Hein. Donc elle n'a pas arrêté de les défier quand même. Donc moi je la fais très païenne, et aussi parce que l'Aquitaine, terre de légendes magnifiques, enfin je veux dire, littérairement parlant, l'Aquitaine c'est vraiment magnifique, enfin.
Oui, on voit tout au long de votre
vous
roman.
Vous avez de ces légendes ici. Moi, je vous envie à Paris, j'ai rien du tout. Hein, moi, mais ici, vous en êtes abreuvé de partout. C'est magnifique ce que vous avez comme terreau de légendes. Un peu comme la Bretagne.
C'est ça.
Les deux seules régions que je connaisse qui sont aussi riches, c'est de ce côté-là, c'est Bretagne et Aquitaine.
C'est vrai. D'ailleurs, on a des bribes de chants,
ouais,
qui sont...
Vous avec dites, l'Occitan.
C'est ça.
Vous avez l'Occitan quand même.
Oui.
Oh là là, Vénard.
Attention. C'est un débat. Donc, terre de littérature, justement, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le roman, la façon de... Vous faites parler Richard,
oui.
Donc Richard Cœur de Lion, qui au début n'est pas encore roi. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Parce que je pense qu'il l'aime autant que moi, j'aime Aliénor. Parce qu'Aliénor, elle est présentée... Quand on voit sa vie, on se dit c'était quelqu'un qui pouvait pas être doux. Dans ce qu'elle entreprend... Dans sa conquête de pouvoir, parce que c'est profondément une femme de pouvoir et elle aime ça, elle aime l'exercice de la gouvernance. Alors déjà qu'en 2018, c'est pas commode pour une femme. Alors vous imaginez au XIIe siècle, hein, quand même. Donc j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais du coup, elle peut pas se montrer douce. avec les projets qu'elle a et comme elle mène sa vie, elle ne peut pas se permettre ça. Et en même temps, ça n'est pas que un être au poing serré. C'est pas que un être à la nuque droite, fier et assez austère. C'était que Richard qui pouvait me donner ce regard enveloppant de quelqu'un qui regarde une autre personne au poing serré et qui peut se dire, mais un poing serré, c'est aussi une main qui garde. Mais quand je la vois qui finalement est aux aguets, guette le danger, est-ce que c'est pas parce qu'elle a perdu quelque chose qu'elle aimait ou qu'elle a peur de le perdre? Donc si elle a jamais enlacé ses enfants, est-ce que c'est pas parce qu'elle a tout simplement peur qu'il arrive quelque chose à ses enfants? Seul un fils aimé par sa mère, parce qu'il était quand même, il est avéré que c'était le fils préféré, peut avoir ce regard où en fait il voit la faille. Et il n'y a que lui qui peut dire un moment à sa mère, ok, vous avez la nuque droite, vous êtes impénétrable, on vous respecte. Mais à un moment, il existe des gens quand même dans le monde qui peuvent vous enlever un manteau des épaules et vous indiquer un fauteuil. Et il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Il n'y avait qu'un fils unique pour pouvoir dire un moment qui aime autant sa mère, qui pouvait percevoir aussi le rapport qu'elle avait avec la littérature. Parce qu'Aliénor a quand même été notre premier ministre de la culture, quelque part. Elle a donné gîte et couvert aux poètes en leur disant « Écrivez-nous des, écrivez-moi des histoires ». Donc c'est une forme de mécénat bien avant l'heure, hein, quand même.
Bien sûr.
Et on lui doit d'ailleurs la légende du roi Arthur.
C'est ça.
Premier génial coup de com' politique. Parce qu'à un moment, quand elle voit son mari qui a du mal à s'implanter en Angleterre, et elle lui dit « Bon, alors si les Plantagenets ont du mal à se faire respecter en Angleterre, c'est pas grave. J'ai entendu dire qu'il y avait un prénommé roi Arthur » qui était quelque part en Angleterre, et puis il y a une histoire d'épée qui l'aurait extrait d'une masse de roches. On n'a qu'à dire, dit-elle au Plantagenet, que cette famille-là du roi Arthur, c'est ton ancêtre. Elle invente le storytelling quand même, hein, comme on dit aujourd'hui en com' politique. Et ça marche. Et ça marche. Donc on lui doit quand même l'expansion, en tout cas, de la légende du roi Arthur, des chevaliers du Graal, etc. Donc Aliénor est un épicentre de la littérature, et il n'y avait qu'un fils pour un moment pouvoir dire... observer ce penchant qu'elle a pour la littérature et dire, mais en fait, peut-être que si ma mère adore la littérature, c'est parce que la littérature est la seule chose au monde qui peut lui offrir l'envers de sa vie. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, la littérature, c'est la seule chose qui vous offre une réversibilité du sort. Donc, les troubadours ont chanté cette « plus que dame », comme ils l'appelaient, précisément parce que, dit Richard, mon père l'empêche d'en être une.
C'est son arme.
Voilà, exactement. Ils ont chanté la beauté parce qu'ils savaient qu'elle se flétrit. Aliénor a demandé à ce qu'on chante la paix, l'amour sans nuages, la quiétude, précisément parce qu'elle en était absolument privée. Donc en fait, il n'y avait qu'un fils unique et aimé qui pouvait... pardon, pas unique parce qu'il a des frères. Oui. Un fils aimé qui pouvait comprendre ça de sa mère en disant mais peut-être que si elle aime autant la littérature, c'est parce que là, elle trouve un répit, en fait. Voilà.
Vous avez cette phrase au tout début du roman qui est très forte, qui résume assez bien ça. Vous l'attribuez à Aliénor. Je peux tout voir, sauf ton sang.
Voilà.
Et ça, elle le dit à Richard, et c'est vrai qu'on sent.
Oui, parce que Richard comprend que elle dit pas des mots d'amour, mais par contre, parce que c'est trop s'exposer, ça, de dire des mots d'amour, ça rend trop vulnérable, en fait. Mais du coup, sa tendresse se manifeste par des actes. Donc, il va trouver une selle sur son cheval parce qu'il va chasser. Et la selle est toute fraîche. Les filles vont trouver des rubans de Bagdad qu'elles peuvent nouer dans leurs cheveux. C'est Aliénor qui les a fait importer et qui leur a rien dit. Donc il dit, voilà les tendresses de ma mère, ce sont des actes cachés. Et puis il y avait aussi autre chose que ça me permettait de glisser. C'était cet amour que moi j'ai du Moyen-Âge et de l'ancien français notamment. Au Moyen-Âge, la parole a un réel sens. C'est pas du tout comme Twitter, par exemple. Non, mais vous voyez, c'est pour le coup, l'expression « tenir la parole » vient de l'ancien français. Et au Moyen-Âge, la parole est tellement puissante qu'elle engage la vie ou la mort de quelqu'un. Et regardez bien les textes. Un chevalier lit ses jours à une dame à partir d'une promesse. La guerre se décide d'une phrase. Le serment, qui est toujours accompagné d'un geste, d'ailleurs, au Moyen-Âge, le serment d'allégeance, engage réellement la vie du vassal vis-à-vis de son seigneur. C'est-à-dire, le mot a une valeur quasiment performative. Le mot est action. Alors, évidemment, c'est très différent d'aujourd'hui, hein, où on parle à peu près pour ne rien dire, et où le mot n'a quasiment plus aucun sens, justement.
Justement, alors... La parole, pareil, j'ai eu quelques questions là-dessus. J'aimerais revenir sur cette famille. Parce que finalement, c'est un roman aussi sur la famille.
Sur la famille.
Oui, sur la famille, tout à fait. La famille, déjà, on va dire biologique, puisqu'on voit les rapports, déjà, entre Aliénor et ses enfants et leur père, qui sont des rapports plus conflictuels, et le poids de cette famille. Mais également la famille, on va dire, au sens élargi, puisqu'on voit également les relations que Lee, étrangement, ça pourrait nous paraître étrange aujourd'hui, Richard, Henri et les enfants d'Aliénor, avec Louis VII, finalement,
qui est le premier mari.
Le premier mari. Et on voit qu'il y a des relations quasi filiales, et même entre Richard et Philippe, des relations quasi fraternelles.
Alors qu'il va l'exterminer.
Exactement. Voilà.
Alors, ça, c'est le charme des Plantagenets. Les Plantagenets, c'est une famille qui n'a pas cessé de s'entretuer. Bon. Ça a son charme. En tout cas, quand vous êtes romancier, c'est du carburant, quand même. Hein.
Oui, oui.
Et le drame de cette famille, c'est pour ça que c'est shakespearien. Ils n'ont pas cessé de s'entretuer, mais tout le temps. Il y a un côté les Atrides un peu quand même. Hein.
Oui, bien sûr.
Alors que face à eux, il y avait la famille, on va dire pour dire famille, mais il y avait les Capétiens.
L'ennemi hérédité.
Voilà. Et les Capétiens, ça c'est les historiens qui le disent, sont réputés pour être disciplinés. C'est-à-dire c'est calme chez les Capétiens, à peu près.
C'est
parce que, bon. Et en fait, c'est la lutte du chaos contre l'ordre.
C'est ça.
Et l'histoire va montrer que c'est les Capétiens qui vont gagner. Parce qu'à la fin du livre, elle a tout perdu, Aliénor. Et les années qui vont suivre, eh ben, c'est les Capétiens qui vont tout avaler. Donc, je trouve ça magnifique, l'idée que c'est la défaite du chaos sur l'ordre. C'est l'ordre qui gagne. Et c'est assez fort, je trouve, dans notre histoire de France, quand on voit ça. Après, ça me permettait aussi de soulever d'autres thèmes qui sont assez peu soulevés, parce que c'est assez politiquement incorrect, mais moi, j'aimais bien mettre en avant l'idée du parent. Parce que le Plantagenet, à un moment, il y a une complainte du Plantagenet. Il prend la parole sur 6 pages. Bon, et c'est la complainte du père attaqué. Parce que quand même, si on se met 3 secondes à sa place, lui, c'est Belzébuth durant tout le livre. C'est Aliénor qui dit qu'il faut l'exterminer, machin. Les enfants sont contre lui.
Il n'est jamais nommé.
Il est assez peu nommé. Et puis brusquement, il prend la parole. Et là, on voit, j'espère en tout cas, on voit émerger quelqu'un de complètement différent. Enfin, on se dit, mais en fait, oui, le regard change complètement sur lui. Enfin, en tout cas, c'était mon but. Mais lui, il prend la parole et il dit, attendez, moi, je suis un père, j'ai donné tout ce que j'avais de meilleur à mes enfants, et le résultat, c'est qu'ils se retournent contre moi. Il y a quand même là une condition tragique du père, du parent, qui est que vous donnez à un moment les meilleurs de vous, avec le risque quand même que la main de l'enfant bazarde tout à terre, piétine. Et lui, il a cette phrase terrible, il dit, être père, c'est perdre l'innocence. Et j'avais très envie de le mettre en avant, ça, parce que on est dans une société aujourd'hui où on nous met beaucoup, uniquement en avant, le versant sublime d'être parent. Évidemment que c'est sublime, bien sûr. Mais on oublie un peu vite de parler de l'ingratitude, quand même, de ce que peut être la condition parfois de parent. Et puis c'est interdiction d'en parler, parce que dans ce cas-là, ça suppose que vous n'aimez pas vos enfants, ce qui est absurde, mais c'est les amalgames assez rapides qu'en général, les bonnes mœurs font. Donc, on n'en parle pas. Mais si, il y a quand même une condition assez tragique, parfois, du parent. Et c'est de la même façon, Aliénor aussi le dit. Aliénor, à un moment, elle prend la parole en tant que mère, et elle dit, j'ai appris à mes filles à être droites, à être solides. Elle est lucide, Aliénor. Elle sait que ses filles vont être mariées entre 11 et 13 ans, qu'elle ne les verra plus. Donc, elle le sait très bien, ça. Donc, elle dit, je leur ai appris à lire, à écrire, à penser, ce qui était vrai. Aliénor a vraiment éduqué ses filles comme ça. Et elle dit, mais si je suis très honnête, je ne les ai jamais entendues rire.
Oui.
Et s'ensuit une interrogation où elle dit, bah, ouais, mais j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a aussi, je tenais beaucoup à cette indulgence envers le parent, que la société adore crucifier assez vite, quand juste l'enfant ne répond pas aux critères ou part un peu en sucette, quoi. Voilà. En général, c'est toujours un peu le parent responsable. C'est toujours sous-jacent, c'est toujours sous-entendu, c'est toujours... Bon, y a toujours quelqu'un qui passe, et lui qui est la famille parfaite. Et donc, le parent est toujours pétri un peu de culpabilité. Et je tenais vraiment à ce que, en tant que parent, Aliénor et Henri, le Plantagenet, prennent la parole en disant « on a fait ce qu'on a pu ». Et la condition de parent, c'est ça, quoi. C'est faire ce qu'on a pu avec ce qu'on avait.
Je ne leur ai pas appris à sourire, je leur ai appris à se défendre.
Voilà, je ne leur ai pas appris à sourire, exactement, je leur ai appris à se défendre.
Voilà.
Et elle dit, mais est-ce que c'est criminel de vouloir protéger ceux qu'on aime?
Bien sûr.
Et oui.
Et donc, justement, le titre, La Révolte. La Révolte, on va dire comme fait historique, la révolte des enfants d'Henri II et d'Aliénor, pour des raisons politiques, ça vous l'expliquez très bien. Est-ce que c'est la seule révolte de ce roman ? Alors, la révolte contre le père, on l'a déjà abordée.
Non, mais elle est belle, votre question. Parce qu'en effet, la révolte, c'est Aliénor qui lance ça contre son mari. C'est les enfants qui la suivent. Mais c'est aussi la révolte qui se joue à l'intérieur de Richard Cœur de Lion. Voilà. Parce que lui, mine de rien, si on se met du point de vue de l'enfant, lui, c'est un conflit de loyauté qui est terrible. Sa mère lui demande d'aller renverser son père, quand même. Il suffit de penser 3 secondes à ce que c'est qu'être un enfant quand les parents se séparent ou que se déchirent. Hélas, c'est tristement banal, mais là, il y a quelque chose d'hyper moderne, quand même. Pour l'enfant, c'est terrible. Et moi, je tenais à ce qu'il se joue ça à l'intérieur de Richard, parce qu'il obéit à sa mère, mais il se sent coupable, quand même. Et c'est pour ça que je tenais à faire de Richard un vrai guerrier. C'est-à-dire que c'est aussi un livre sur la guerre, c'est aussi un livre sur la violence, qui n'était pas, au Moyen-Âge, qui n'était pas nié. Et si Richard est aussi, pour, là c'est la romancière qui parle, hein, aussi brave guerrier, parce que c'est un guerrier sublime quand même.
Oui.
C'est sublime, les plans de bataille de Richard Cœur de Lion, c'est un art militaire poussé, mais c'est inouï. Et d'ailleurs, tout ce que il je décris, les batailles quand il est en croisade, tout ça est véridique.
Hein, oui. Vous le précisez.
À un moment, il dit Richard Cœur de Lion, il parle à sa mère dans sa tête, il est sur le champ de bataille au pied de Jérusalem, il est en train de gagner contre le Saladin, et il dit sur le champ de bataille, je suis court d'esprit, je suis animal, je suis instinct, je ne pense plus, je ne suis plus civilisé avec les textes, les lettres, l'amour courtois, rien. Je suis bas de plafond. Sur le champ de bataille, je suis Plantagenet. Je suis mon. En fait, c'est là où je suis fidèle à mon père. Et donc, il dit : pardonnez-moi, ma mère, mais si moi je suis aussi valeureux guerrier, c'est parce qu'à ce moment-là, je suis loyal envers mon père, parce que là, je suis de son sang, vraiment. Et voyez, ça, c'est typique. C'est que le romancier qui peut écrire, imaginer ça. Parce que, mais j'aimais bien imaginer que c'était sur le champ de bataille que là, quelque part, Richard se réconcilie avec son père.
Richard, finalement, apparaît comme le parfait amalgame, enfin, la parfaite synthèse du père et de la mère. Finalement, oui. Il est l'homme dans une société féodale, enfin, ménageuse, que n'est pas sa mère. Et il a appris d'Aliénor cette constance que n'a pas son père,
oui.
Puisqu'Henri
oui.
II est un être, enfin, présenté comme un être colérique.
Il était très colérique,
voilà.
Parce que son père l'était aussi.
Oui.
Le Plantagenet avait des crises de fureur qui désarmaient tout le monde, il faisait complètement peur. D'ailleurs, à la fin, il n'avait plus de crédit, parce qu'il se mettait tellement dans des colères furibardes que les gens, finalement, avaient complètement cessé de le respecter. Il se roulait par terre. La légende veut qu'il avait essayé d'arracher les joues avec ses dents d'un pauvre petit page qui passait par là et qui se roulait par terre en mâchant le foin qu'on mettait par terre pour que ça sente bon. Donc, c'est vous dire quand même le sang-froid du bonhomme, quoi. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, ça portait atteinte à son image de monarque. Alors, sans aller dans ces excès de fureur, Richard, il a, sur le champ de bataille, il a ça. Il est sanguin comme ça. Et il gagne.
Oui, on voit
là. Et il gagne.
Il peut être une grande cruauté.
Oui, il peut, mais bien sûr qu'il peut être cruel, bien sûr. Mais ça, j'y tiens un petit peu parce que on me dit, j'entends tellement souvent, oh là là, les scènes de bataille, oh, la croisade, oh là là, qu'est-ce que le Moyen-Âge était violent. Ce qui me fait un peu bondir de rage, puisque, par bien des aspects, le Moyen-Âge était quand même moins barbare que le XXe siècle. Qui, en matière de barbarie, a poussé le curseur assez loin. Et aussi, par rapport à notre 21e siècle, en fait, où la violence, en fait, qui est inhérente à toute société, le Moyen-Âge n'essaie pas de la nier. En 2018, notamment dans le milieu du travail, où il y a beaucoup de violence, regardez les mots qu'on emploie. Pour dire qu'on licencie quelqu'un, on dit qu'on le remercie. Mais, attendez, est-ce que ça n'est pas la plus grande des violences? Que d'avancer planqué, maquillé, avec une hypocrisie qui en décuple la puissance. Au Moyen-Âge, cette violence, qui encore une fois est inhérente à toute société, on ne met pas un couvercle dessus. On n'a pas cessé d'essayer, de la canaliser, de la codifier. Alors, bien sûr que ça venait principalement de l'Église, qui essayait un maximum de réglementer. Évidemment que ça marchait une fois sur deux et que l'Église, avec l'Inquisition, a trahi ses idéaux. Mais en attendant, au XIIe siècle, si on regarde les textes, l'Église, par exemple, interdit au seigneur de partir en guerre si le roi lui-même est en guerre. Ainsi, elle essaye d'institutionnaliser la guerre et de limiter les guérillas privées. C'est au Moyen-Âge que saint Augustin invente le concept, aujourd'hui contestable, évidemment, nous, ça nous paraît contestable, mais de guerre juste. Et quand on regarde ce qu'il écrit, il dit « j'appelle guerre juste ». En gros, on met sur la tronche de son voisin s'il a d'abord essayé de nous attaquer. Donc, vous voyez, on essaie sans arrêt de canaliser comme ça. Les tournois n'ont pas le droit de se terminer par la mort d'un adversaire. Il y a un devoir d'hospitalité. Et en ces temps de grands flux migratoires, ça nous donnerait 2-3 leçons. Ce que je veux dire par là, c'est que le Moyen-Âge, par bien des aspects, est extrêmement civilisé. C'est pour ça que quand j'entends moyenâgeux par les médias, chaque fois qu'il faut qualifier en général Daesh, ce qui fait toujours plaisir, mais on dit moyenâgeux dans les médias quand on parle de quelque chose qui est bas de plafond, violent, ça me rend folle, parce que non.
Oui, c'est bien sûr.
C'est un raccourci qui me met en colère à chaque fois, vraiment.
Oui, d'ailleurs, le portrait que vous dressez de l'Aquitaine revient complètement.
Enfin, oh, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis au Moyen-Âge, on se lave les mains avant d'aller à table.
Tout à fait.
Oh là là, bon sang, il faut quand même le dire.
Vous avez...
Non mais c'est tellement énervant. À table, on commence par les fruits. Bon, tous les nutritionnistes aujourd'hui vous disent que c'est la meilleure chose à faire. On a gardé cette habitude avec le melon, mais au niveau, pour des raisons glamour que je vous passerai de bol alimentaire et de fermentation, en gros, les diététiciens aujourd'hui vous disent que c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas d'assiette, on partage les aliments sur des tranches de pain qu'on partage, d'où le mot « copain ». Mais vous voyez, en trois exemples, la modernité du Moyen-Âge, comme elle est là.
Bien sûr.
Oh là là.
Et le Moyen-Âge est bruyant, puisque vous avez cette phrase, puisqu'on parle de violence, on parle de guerre. La guerre est d'abord une affaire de bruit. Les cavalcades, les grincements des gonds, les cliquetis des lames, le fracas des murs enfoncés. Le Moyen-Âge est bruyant, comme aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui.
Oui, mais alors, c'est pas des sonneries de portable, quoi. Il y a des bruits plus ou moins agréables. Non, mais sur la guerre, ce que je dis ça... Oui, parce qu'après, Richard Cœur d'Oignon, il dit la guerre est une affaire de bruit. Et c'est vrai. Et regardez les rescapés de guerre qui, au son d'un orage, se mettent sous la table parce qu'ils reconnaissent... parce qu'ils ont l'impression que le tonnerre est le bruit d'une bombe qui arrive, alors que les préservés, en fait, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu la guerre, considèrent que c'est un orage. Regardez au lendemain du Bataclan les attentats en 2015 qu'il y a eu à Paris. Regardez comme c'était intéressant ce que disaient les gens qui n'étaient pas victimes directement, mais qui étaient aux abords du Bataclan et qui disaient tous j'ai d'abord cru que c'était des pétards, j'ai cru que c'était des feux d'artifice. C'est ce médecin qui disait les blessés sont arrivés à l'hôpital dans un silence que je n'avais jamais entendu, mais surtout les feux d'artifice, les pétards. Je me souviens de quelqu'un à la télé qui disait j'ai cru que c'était une voiture qui roulait sur un ballon. Autrement dit, le registre sonore que nous avions, nous rescapés de la, c'est-à-dire préservés de la guerre en fait, c'était le registre de la fête. C'est-à-dire qu'on avait une innocence de l'ouïe et on le savait même pas, ouais. Comme toute innocence d'ailleurs. Mais le fait que spontanément les témoignages des Parisiens de cette zone-là, c'était feux d'artifice, pétards, etc., ça montrait une innocence de l'oreille que nous n'aurons plus. Et d'ailleurs, c'était tous les témoignages aussi des gens, soit qui sont israéliens, soit qui sont bosniaques, qui ont vécu à un moment un conflit. Tous ont dit mais ce son-là que j'ai entendu, je l'ai reconnu au quart de tour. Donc bien sûr que la guerre est une affaire de bruit.
Alors la guerre, la révolte. La guerre n'est pas qu'en Aquitaine, la guerre n'est pas qu'en Angleterre, puisque le roman suivant Richard, racontant Aliénor, on arrive en Orient.
Et on arrive
à la croisade.
La troisième
croisade. Qu'est-ce que cette croisade pour Richard?
C'est la première fois où en Occident, on intercepte des courriers de Saladin qui dit « je vais faire quelque chose qui s'appelle le djihad ». Donc après, on m'explique que le Moyen-Âge est coupé de notre époque, mais il faut qu'on m'explique encore une fois. Hein. C'est la première fois, d'ailleurs personne ne comprend le sens de ce mot à l'époque, on se penche dessus, on essaie de voir ce que ça veut dire, et il explique Saladin, et il dit, je veux, pour lui, à ce moment-là, c'est une sorte d'unification de l'islam politique. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit passer ce mot-là. Et il se trouve que, moi, ce que je trouve très beau, c'est le lien, la légende veut que, mais bon, on ne saura jamais, l'espèce d'estime qu'il y avait entre Saladin, donc musulman ennemi, et Richard Cœur de Lion, chrétien ennemi. Et on raconte, la légende raconte, que sur le champ de bataille, alors que Richard a gagné à chaque fois contre Saladin, et Dieu sait s'il était doué, à un moment dans la mêlée, il voit arriver un cheval frais, et c'est Saladin qui lui fait porter. Magnifique. Alors qu'il est en train de s'affronter avec Saladin. Mais que Saladin, devant l'immense vaillance de son adversaire, sait reconnaître ça, et lui envoie un cheval. On est quand même, c'est une, c'est une, un, un art de la guerre qui est quand même très loin de gars planqués dans des grottes qui envoient des terroristes justement au Bataclan alors qu'eux sont planqués dans des grottes, mais qui sont aussi très loin de cette guerre de drones où vous êtes derrière une console et vous envoyez d'une touche exterminer 150 personnes. Je sais que c'est politiquement incorrect, mais il y avait au Moyen-Âge, et c'est resté après longtemps, mais une sorte d'art de la guerre avec des règles.
Face à face.
Et moi, je trouve ça magnifique. De la même façon, l'art d'un siège, attaquer une forteresse, ça a quand même de l'allure, quoi.
Saint-Jean-d'Acre. Oh là, justement, alors.
Ça s'apporte un nom, en plus, ça s'appelle la poli urseutique. Mais c'est. Enfin, je sais pas. Et d'ailleurs, quand Richard Cœur de Lion est devant Saint-Jean-d'Acre, ça, c'est typique du romancier. Vous me demandiez tout à l'heure, je reviens à votre question du début sur l'historien, le romancier, mais il regarde Saint-Jean-d'Acre, qui était une forteresse a priori imprenable. Hein. Ça faisait 3 ans que les chrétiens n'arrivaient pas à la prendre. Hein. Et Saladin la défendait bec et ongles, alors qu'ils étaient assiégés. Donc ils avaient a priori plus de nourriture, plus de vivres. 3 ans qu'ils résistent, les gars, quand même. Hein. Et Richard la regarde et dit, bon, alors attends, je te jauge, triple épaisseur de muraille, stratagème secret, souterrain, citerne, des portes qui sont plantées dans la roche, t'as su utiliser la nature, qui t'approche frontalement se prend une volée de flèches, donc meurt, et il dit, ok, je connais ce genre de tempérament, c'est celui de ma mère.
Alors voilà, juste et
ouais,
c'est là
en
que
fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que le romancier pour un moment dire, le rapport qu'il a avec la forteresse à assiéger, d'ailleurs à la fin, il dit, ma mère, cette femme forteresse. Donc, Aliénor, c'est ça, c'est Saint-Jean-d'Acre, Aliénor aussi.
Est-ce qu'il exorcise Aliénor quand il va en Orient ?
Non, parce qu'il la respecte, il n'a pas besoin de... Il est trop... il l'a trop planté dans le cœur pour pouvoir s'en extraire, quoi. Mais...
Il a cette réaction du fils qui cherche quand même à s'éloigner d'elle, puisqu'il...
Ah, toujours,
les quand enfants... Quand il est à Messine, ouais. Elle vient le voir, et il l'attend.
Maintenant, elle lui apporte une fille qu'il faut épouser parce qu'il faut l'engrosser fissa quand même. À un moment, il faut faire des héritiers. Hein. Aliénor, elle est pragmatique. Elle se dit, l'Aquitaine, elle va être sacrément menacée. Il faut quand même que Richard, qui est roi d'Angleterre, nous fasse un petit garçon. Donc, elle lui apporte une petite dame qu'elle a été chercher à Navarre, qui s'appelle Bérangère de Navarre. Et il lui fait pas d'enfant.
Alors... Finalement, il part. C'est assez paradoxal de voir que Richard, à partir du moment où il part en croisade, finalement, il part pour chercher la paix, une paix avec lui-même.
Alors, moi, c'est ce que je lui fais dire. Il dit, ma mère a compris que j'avais la paix seulement sur un champ de bataille. Ben oui, parce que c'est sur un champ de bataille qu'il réconcilie. Il se réconcilie, ce que je disais tout à l'heure, avec son père. Donc, en fait, c'est dans la guerre qu'il a la paix. Vous voyez ? Ben oui, c'est moi, pour moi, la clé du personnage, elle est là. Hein. Donc. Après, juste dire un petit mot sur Aélis quand même.
Ombre de l'histoire. Oh là là, Aélis.
Les livres d'histoire sont truffés d'ombres qui circulent comme ça, qu'on voit passer une phrase, hop, c'est tout. Alors que personnage magnifique. C'est et notamment, il y en a une qui s'appelle Aélis, qui porte un prénom magnifique. Selon les versions, elle est appelée Adélaïde, mais bon, Aélis, je trouve ça très beau. Et c'était la femme que devait épouser Richard Cœur de Lion. Et les historiens, de surcroît, c'était la fille de Louis VII. Donc en plus, vous voyez le truc à l'époque, ouais. Richard doit donc épouser la fille du premier mari de sa mère. Genre en 2018, on est sage, hein, quand même.
Oui, ah oui, oui.
Et ça passerait pas. Personne n'a compris pourquoi il ne l'approchait pas. C'est même pas qu'il ne l'épouse pas, c'est qu'il ne l'approche pas. Et en fait, les historiens ont fait une supposition, qui a priori serait celle-là, de dire, mais en fait, elle a été violée par le père de Richard, le Plantagenet. Donc elle a été violée par son futur beau-père, qui visiblement avait la braguette facile, si je peux me permettre. Et... la légende veut que elle ait même eu un enfant de ce viol et que du coup on l'ait mise pareil dans une tour et qu'on ait un peu oublié Aélis. Bon, et que l'enfant serait mort. Et je trouvais que ce personnage était sublime. Cet oublié de l'histoire. Alors, il se trouve que heureusement, elle a eu une belle fin de vie, vraiment. C'est-à-dire qu'elle a fini par épouser un gentil chevalier, elle a eu son petit manoir en province, elle a eu son potager, puis ses enfants et tout. Bon, Aélis, elle a bien terminé. Mais j'avais très envie de faire parler à Aélis à un moment, parce qu'on ne l'entend jamais, par définition, et qu'à un moment, à la veille de la bataille pour Jérusalem, c'est la complainte de la délaissée, et elle dit à Richard, « J'ai rien d'autre à t'envoyer que mon chagrin, mais il est coriace. Il est obstiné. Mais j'ai rien d'autre à t'envoyer que ça. Alors ça m'a tenu chaud toute ma vie, mon chagrin et mes regrets. » Et c'est ce que je t'envoie à la veille de cette bataille qui va être décisive.
Alors, Aélis est emprisonnée avec Aliénor.
Oui, alors ça, pareil, les historiens l'ont supposé. typique. Alors, quand un historien suppose, vous avez un romancier heureux.
Oui, ah, ça laisse des...
J'adore. Moi, en général, parce qu'on peut décréter, nous. On peut décréter. Mais le plus dur, c'est de rester romancier. Vous me dites sur le temps. Hein.
Non, ça, mais bon.
Le plus dur, c'est de rester romancier. Souvent, les gens me disent, mais est-ce que vous êtes allé sur les endroits vérifiés ? Jamais. Jamais. Si je vais... Parce qu'on a des vestiges magnifiques, hein, on a des châteaux, on a... Si moi, je vais dans un château et que je m'aperçois qu'il y a 3 donjons et que j'avais envie d'écrire qu'il y avait 1 donjon, eh ben, on a tous un petit fond scolaire, un peu. Je vais me sentir un peu obligée d'être... ah oui, mais bon, il y avait 3 donjons, j'ai pas écrit qu'il n'y en avait qu'un. Vous voyez ? En fait, le plus dur, c'est de rester romancier. Si je veux écrire qu'Aliénor posa sa fourchette et leva la tête, il n'y avait pas de fourchette au Moyen-Âge, eh ben, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que je m'autorise. Et d'ailleurs, je m'en veux beaucoup, parce que la première ligne de la première page, Aliénor apparaît, c'est Richard qui la voit arriver vers lui, et c'est « sa robe caresse le sol ». Et ben, au début, c'était « ses longues manches caressent le sol », parce que c'était ça, l'image. Ça dit tout, ça dit le Moyen-Âge, ça dit la démarche, ça dit le corps, ça dit la lignée, ça dit le rang, ça dit tout. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été à un colloque des historiens du vêtement. Bêtement, ce que j'aurais jamais dû faire, je leur pose la question. « Ah, mais est-ce que quand on a Redkenna, il y avait des manches longues ?» Ils me répondent « Hérésie, surtout pas, ça arrive plus tard. » Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je... Ah, bah oui, alors, voilà, vous voyez, j'ai cédé. Eh ben, j'aurais pas dû.
Parce qu'on
s'en fout. Non, mais vous voyez, on s'en fiche après tout que ce soit apparu 20 ans après. Bon, c'est pas grave. Ben, non.
Ah non, c'est pas
moi,
ça.
J'ai mis sa robe et je m'en veux.
Vous avez raison. De toute façon, votre roman, c'est un voyage. Quand on lit ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on n'est pas uniquement devant une scène de théâtre où des personnages se meuvent. Il y a des odeurs. Il y a des couleurs, et il y a des goûts même. Vous parlez beaucoup de la cuisine qu'on sert à Aliénor, de la cuisine qu'on mange, de ce dont on se sert, des bandes de Babylone. Enfin, c'est vraiment une période qui apparaît comme étant une période colorée.
Ah, mais qu'il était ! N'oubliez jamais que les cathédrales étaient entièrement colorées et peintes, et que c'était un lieu de marché, de chant, d'échange, exactement comme le cimetière. C'était des places publiques. C'est l'Église qui, plus tard, a un peu vissé le système en décrétant qu'il était hors de question qu'on aille échanger des marchandises et vendre et que ce n'était pas un lieu de vie comme les autres. Mais pendant très longtemps, c'est resté un lieu de vie comme les autres. Le Moyen-Âge est une période qui déborde. C'est une période qui n'a pas peur de l'excès. Alors que nous sommes dans une période qui est tellement frileuse, qui se méfie tellement de l'outrance, qui a tellement peur de déborder. Résultat, qui verrouille tout, qui déborde de partout, d'ailleurs. Notez bien, mais bon. Mais le Moyen-Âge... adore l'excès, tout, la colère déborde. Oui, il y a du sang, oui, il y a de l'appétit. Oui, mais regardez les poésies érotiques des troubadours, ça ferait rougir aujourd'hui tout un politiquement correct. C'est une époque truculente de vie. On le dit pas assez. À chaque fois, on le présente encore une fois comme quelque chose de mortifère et d'obscurantiste.
Ce qui n'est pas le cas.
D'ailleurs, vous dire aussi que Aliénor, on me dit souvent est-ce qu'elle était unique en son genre, etc. Mais pas tant que ça. Les historiens l'ont montré, mais il n'était pas rare, peut-être pas fréquent, mais il n'était pas rare qu'une dame dans la noblesse sache parfaitement manier l'épée. Quand monsieur le seigneur est parti guerroyer avec son voisin, il faut bien quelqu'un qui garde le château quand même. Et en général, il se faisait attaquer. Donc il n'est pas du tout rare. Il y avait ce qu'on appelle des chevaleresses et qui savaient tout à fait manier l'épée. Il fallait bien. De la même façon, les femmes travaillaient, que ce soit au champ ou dans cette classe qui est en train de monter, qu'on n'appelle pas encore bourgeoisie, et qui est l'artisanat qui est en train de monter, les boutiquiers, etc., monsieur mourait, madame prenait le relais. On n'allait pas commencer à dire « Ah non, mais t'es une femme, tu vas pas travailler. » Ça, c'était pas possible. Il y a eu un pragmatisme qui fait qu'il fallait travailler. Donc, il y a quand même quelque chose... Jacques Le Goff a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le Moyen-Âge et l'argent », et il explique dedans qu'au XIIe siècle, au XIIIe même, le premier contribuable parisien est une femme et qui a les carrières de marbre dans un quartier qui s'appelle la Tombissoire, qui est encore aujourd'hui à la rue de la Tombissoire dans le 14e arrondissement. Et c'était la femme d'affaires de l'époque, quoi. Mais qui avait des carrières de marbre et qui était une femme. Donc c'est plus tard que ça se visse, en fait. Mais ce Moyen-Âge-là est beaucoup plus libéral. Rendez-vous compte, on a trouvé des articles dans le Code civil qui était en train d'être élaboré, qui punissaient, donc c'est bien que c'était fait, qui punissait le mari qui avait enduit sa femme de miel, du bout des, c'est écrit comme ça, hein, du bout des orteils à la racine des cheveux qui avait léché. Bon, bah, c'est bien que c'est, 30 coups de bâton, tout ça. Mais c'est bien que c'était fait.
Oui.
Bon, ben voilà.
Alors, pour en revenir un peu au personnage de ce roman, il y a énormément de jeux de miroirs dans ce roman, finalement.
Des jeux de miroirs.
Oui, on est face à des personnages qui se jaugent en permanence. Et ça se voit entre Aliénor et son mari. Ils sont identiques. C'est pour ça qu'ils se détestent autant. C'est comme ça que vous présentez les choses. Philippe et Richard, là, on est, c'est
ah oui,
totalement
c'est vrai,
différent.
Mais vous l'avez beaucoup mieux... vous en parlez beaucoup mieux que
je
moi.
Je l'ai lu. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à articuler ça?
Mais j'en sais rien, c'est vous qui me le dites avant, après coup. Hein.
Vous inventez ça ou c'est...
Ah oui, bien sûr. Ah, attends, j'invente. Il y a les faits.
Oui.
Alors, moi, j'invente. Ma théorie est que Aliénor fait une erreur, une seule dans sa vie... c'est qu'elle ne mesure pas. Quand elle épouse le Plantagenet, elle est sincèrement persuadée qu'elle va mener la danse. Elle est plus aguerrie que lui, elle est plus experte, elle a déjà été reine, lui, il n'a jamais été roi, et en fait, elle se trompe. Et en fait, pour la première fois de sa vie, elle sous-estime son adversaire. Or, il se trouve que, moi, je pense que leur drame, c'est que mari et femme se valent. Ils sont à égale excellence en réalité, et qu'au sommet d'excellence, il n'y a pas de place pour deux fauves. Et ça, ni l'un ni l'autre ne le mesure. Ça, c'est ma théorie. Après, c'est invérifiable. Mais n'empêche que, en effet, il y a un jeu de miroir, vous avez raison, mais qui n'est pas conscient. Quand moi j'écris, non. Je ne me dis pas il y a un jeu de miroir. Et ensuite, là où vous avez raison, c'est que Richard Cœur de Lion, son grand ennemi, va quand même être son dernier frère, Jean Santerre. Alors là, si c'est pas un magnifique exemple de lutte intra-fratricide, c'est le seul que le Plantagenet a choyé. Quand Jean Santerre naît, Aliénor a 42 ans. Il arrive dans un palais glacial d'Oxford. Il n'était pas attendu, ça va de soi. Aliénor ne l'aime pas, on l'a dit. Et le seul qui, contre toute attente, s'en occupe, c'est le Plantagenet. Ça, c'est véridique. Il le trimballe avec lui, il lui apprend le français, il lui apprend les échecs, il lui apprend l'astronomie. Il se comporte comme un père. Et d'ailleurs, Richard Cœur de Lion dit c'est pourquoi nous le détestons. Parce que nous, on n'a pas eu de père. Il ne s'est pas comporté comme ça avec nous. Et il le bichonne. Il va quand même le privilégier au niveau héritage au détriment des autres fils. Et c'est lui qui va tuer Plantagenet. C'est quand même dément, non?
Oui, mais c'est un drame, une tragédie. Mais cette histoire est une tragédie.
Et il ne s'y attend pas. Personne ne s'y attend. C'est lui qui finit par le tuer. Donc, le père, quand il en parle, c'est terrible pour lui, d'ailleurs.
Oui.
Mais là, il y a un jeu de miroir entre Jean et ses frères, quelque part. Et il y a aussi, en effet, un jeu de miroir entre Richard et ce fameux roi, Philippe Auguste, qui aura tous les honneurs, qui va rester dans notre postérité, qui est le fils de Louis VII. Et qui va dire à Richard, je veux ton Aquitaine, je la veux. Et ils vont batailler l'un contre l'autre, et Richard va perdre, et Aliénor va perdre.
C'est le grand vainqueur de la
Et c'est lui le grand vainqueur. C'est lui qui va poser les bases de l'État moderne. Philippe Auguste, aujourd'hui, c'est le grand vainqueur de la postérité, en réalité. C'est terrible, quelque part.
Ah oui. Pour finir, j'aimerais que vous nous parliez de la devise d'Aliénor.
Mais c'est moi qui l'ai inventée.
Oui, justement.
C'est pas véridique.
Ça, je l'ai bien lu aussi. Relève ce qui est détruit, conserve ce qui est debout.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce que ça veut dire? Oh, ben ça veut dire qu'il faut être vaillant.
Relève elle est magnifique, cette devise.
Je ne sais même plus où je l'ai trouvée, celle-là. Soit je l'ai inventée complètement... Soit j'ai dû l'avoir passé dans un traité, une charte, et je me suis dit, tiens, je vais dire que c'est ça le serment de duc de Poitiers, alors que pas du tout, et de duc d'Aquitaine. Et quand Richard est couronné duc d'Aquitaine, quand Aliénor lui a donné son Aquitaine quand il avait 13 ans, et donc la devise, c'est relève ce qui est détruit, conserve ce qui est debout. Et je trouvais ça sublime, parce que d'abord, c'est valable pour toutes nos vies à nous, à petite échelle, parce que quand même, la vie, des fois, faut s'accrocher. Donc relève ce qui est détruit, conserve ce qui est debout, oui. Je pense que là, tout le monde comprend à son échelle à soi. Et puis après, c'est un vrai message. Je trouve que c'est magnifique. Il y a quelque chose de l'art de la bravoure, du maintien. Il y a le maintien, en fait. Il y a une sorte d'élégance, quoi, de dignité.
D'espoir.
D'espoir, parce qu'il y a, il y a relève ce qui est détruit, quand même. Oui. C'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire des morts, c'est l'histoire aussi des vies. Pour moi, il y a la condition humaine hein, dans cette phrase-là.
C'est faire la paix avec son passé, également.
C'est faire la paix avec son passé, avec ses parents, avec soi. Et puis, des fois, pour faire la paix, il faut quand même passer par la case « je fais la guerre ». Eh oui.
Qui est omniprésente. Écoutez, Madame Dupont-Moulin, merci beaucoup.
Bah, c'est moi, merci à vous.
Donc, je rappelle, La Révolte, paru chez Stock, vraiment un livre magnifique sur Aliénor d'Aquitaine, que tout Aquitain devrait avoir lu. Merci beaucoup,
Madame
Dupont-Moulin.